Voilà, que Dieu soit béni. Bonjour à tous.
On va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 48. Le psaume 48 et le verset 2. Alors, on est en train de parler depuis plusieurs dimanches sur le thème de la louange, de l'adoration. On a parlé de ce qu'est de rendre un véritable culte. On a parlé de la louange et de l'adoration céleste. Et la semaine dernière, on a parlé de l'adoration terrestre. Et j'aimerais parler ce matin particulièrement, tu peux m'augmenter un petit peu le retour s'il te plaît, le retour de la voix. J'aimerais parler ce matin particulièrement de l'adoration, du vocabulaire de l'adoration. Il y a tout un vocabulaire dans la parole de Dieu concernant différents termes que nous connaissons parfois comme cela, mais nous ne savons pas tout à fait forcément le sens. Alors j'aimerais qu'on les médite ensemble et on trouve beaucoup de termes différents dans les psaumes, surtout le livre des psaumes. Regorge, abonde en louanges, en adoration, avec beaucoup de termes. Bon, le terme le plus classique, le plus connu, c'est la louange. Bien sûr, louer Dieu, la louange, on va voir celui-là en premier. Dans le psaume 48 et au verset 2, il est dit « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu et sur sa montagne sainte. » Puis, je vous cite un autre verset du psaume 71, verset 14. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Voilà, quelques versets, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui nous parlent de louer le Seigneur, de louer l'Éternel de plus en plus, de tout notre cœur, etc. Alors c'est un mot hébreu qui est halal, qu'on connaît bien, puisqu'on le retrouve dans Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer Dieu, louer l'Éternel. Parce que allélu, c'est halal, c'est le verbe louer, et ya, c'est un diminutif de Yahvé. Donc allélu, ya, louer l'Éternel. Halal est utilisé certainement le plus de fois dans tout l'Ancien Testament. C'est un mot qui revient constamment dans la parole de Dieu, qui est un mot hébreu tiré d'un... dérivé, si vous voulez, d'un terme qui signifie « faire du bruit » à l'origine. C'était simplement « faire du bruit ». Et puis, avec le temps, il a pris plusieurs significations, dont la première est de « briller » ou de « luire ». La deuxième signification, c'est de « louer » et « célébrer ». Et il y a une troisième signification qui est moins connue, mais qu'on trouve aussi dans l'écriture avec « halal », c'est de « faire des folies ». Par exemple, David, il est dit qu'à un moment donné, pour sauver sa vie, il s'est enfui chez les Philistins, chez les ennemis du peuple de Dieu. Et il s'est fait passer comme fou. Et le roi Achish, qu'il a vu, lorsqu'il a vu les extravagances, c'est le terme que vous trouverez dans 1 Samuel 21-13, il est dit que David se mit à faire des extravagances, ben c'est le mot halal, qui est traduit ici par extravagance, ça paraissait comme des folies aux yeux de ce roi. Et il a demandé à ce que David soit chassé de sa présence. Bon, voilà les trois significations, grandes significations de ce terme. Le mot halal a aussi donné un autre mot, qui est le mot tehilla en hébreu, qui signifie louange, chant, hymne de louange. Donc ça, c'est le premier verbe le plus utilisé dans la Bible. Quand vous voyez, il est l'objet de toutes les louanges, louer l'Éternel, c'est le mot halal. Mais il y a un autre mot aussi qui signifie louer, qui est aussi beaucoup utilisé, c'est le verbe « yada » en hébreu, qui signifie « louange, chant, hymne de louange ». « Yada » signifie, pardon, « projeter, tirer, jeter ». Parce que « yada », si vous voulez, c'est aussi l'expression des gestes. Car quand on loue le Seigneur, dans la parole de Dieu, il y a des gestes qui accompagnent la louange, notamment ce terme de « jeter, tirer, projeter ». Pourquoi ? Parce que symboliquement, la louange était jetée vers Dieu ou lancée vers Dieu. Et souvent, les Juifs, ils élevaient les mains en même temps qu'ils adoraient pour montrer qu'ils faisaient monter vers Dieu en quelque sorte. C'est symbolique, bien sûr, puisque il y a toute l'attitude de cœur qui est essentielle. Mais à l'extérieur, il y avait des gestes comme de lever les mains, voilà, de jeter vers Dieu cette prière. Et c'est le mot « yada ». Donc projeter, tirer, jeter. Et le grec aussi, bien sûr, utilise des mots pour désigner la louange. C'est le mot ainos en grec, le verbe aïnéo qui est tiré d'aïnos, qui signifie dire une histoire, faire un discours élogieux, louer, chanter les louanges en l'honneur de Dieu. Voilà, quelques termes utilisés dans la parole. Alors, qu'est-ce que la louange? Si on peut le définir simplement en quelques mots, la louange, c'est tout simplement de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Il est saint, il est tout-puissant, il est glorieux, il est merveilleux, il est formidable. Et il y a tous les attributs de Dieu que vous connaissez. C'est comme ça qu'on lui dit, on lui déclare notre admiration, on fait son éloge publiquement. Autrement dit, la louange, elle est centrée sur la personne de Dieu, sur Jésus-Christ. Nous le louons, nous le révérons. C'est pour ça qu'on fait des cultes. C'est pour honorer Dieu, sa personne, sa grandeur. Et donc, quand on fait un temps d'adoration, de louange, tout est centré sur la personne de Dieu. Pas de demande pour nos besoins, pas de demande, pas de prière, puisque les prières, on a dit, on les fait avant le culte, ou on les fait dans les réunions de prière, sauf cas exceptionnel, hein, ça veut dire que pendant un culte, on peut aussi prier s'il y a un besoin spécifique pour une onction d'huile, pour un malade, etc. Mais l'ensemble du culte est tourné donc vers la personne. C'est pas pour nous qu'on fait le culte, si vous voulez, c'est pour honorer Dieu. On vient pour apporter au Seigneur notre sacrifice de louange. Il y a une belle expression dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire dans Hébreux, chapitre 13 et verset 15. Toujours dans la louange. Car le Nouveau Testament nous dit ici qu'on apporte des sacrifices de louange. C'est une expression dans l'Épître aux Hébreux qui est intéressante, parce qu'il y a un parallèle entre l'ancienne alliance et la nouvelle au niveau des sacrifices. Hébreux chapitre 13, verset 15. « Offrons par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Quel est le parallèle avec l'ancienne alliance? D'abord, le premier terme, c'est « offrons ». Alors, évidemment, dans l'ancienne alliance, les croyants venaient apporter au sacrificateur leur offrande, soit c'était un animal, et ils offraient à Dieu, par l'intermédiaire du sacrificateur, donc l'animal était placé sur l'autel. Ils offraient à Dieu donc ce sacrifice. Dans le Nouveau Testament, nous offrons aussi à Dieu. Nous offrons à Dieu, et quand on vient au culte, c'est donc pour apporter quelque chose au Seigneur. On vient offrir notre sacrifice de louange. Donc, on n'offre plus un animal, mais on offre quelque chose de spirituel. Bien sûr, il n'y a plus l'autel des holocaustes, mais l'autel est symbolique, hein, puisque nous apportons, nous apportons directement à Dieu. Il n'y a pas d'autel particulier, c'est plutôt nous qui sommes sur l'autel, puisque la Bible dit « offrez vos corps en sacrifice vivant ». Donc, nous nous offrons à Dieu, nous offrons nos sacrifices de louange au Seigneur. Deuxième terme, c'est sans cesse. Offrons sans cesse. Dans l'Ancien Testament, il fallait sans cesse renouveler les sacrifices parce qu'ils étaient peu efficaces. Ils duraient pour un temps limité et constamment, donc il fallait renouveler les sacrifices sanglants, soit pour les actions de grâce, pour le pardon des péchés, etc. Dans le Nouveau Testament, Jésus, le sacrifice, l'agneau de Dieu, s'est offert une fois pour toutes. Et par contre, nous pouvons le louer sans cesse, quotidiennement, offrons sans cesse. Donc, chaque jour, ce n'est pas réservé, on va dire, à un jour particulier, mais sans cesse, on peut louer Dieu dans notre maison, même dans notre voiture ou dans nos différents déplacements. Nous pouvons avoir des occasions de louer le Seigneur. Et puis, un sacrifice, alors ça, c'est le terme typique de l'Ancien Testament, et c'est intéressant que l'auteur de l'Épître aux Hébreux le colle à louange, parce que dans la mentalité des Juifs, des Hébreux, c'était d'apporter des animaux, des sacrifices. Les sacrifices, c'était toujours des animaux, ou alors des fois, c'était des offrandes de farine, de fleurs de farine, des choses comme ça, des choses matérielles. Et donc, la plupart des sacrifices, c'était un animal innocent, égorgé, dont le sang était répandu. Et dans le Nouveau Testament, on sait qu'il n'y a plus besoin d'apporter de sacrifices sanglants, puisque le sang de Christ a été répandu et efface nos péchés. Il n'est pas question de recommencer. Il n'y aura pas un deuxième sacrifice. Il n'y a pas besoin de rajouter des sacrifices et il n'y aura plus d'autres sacrifices. Jésus ne reviendra pas pour à nouveau être sur la croix. S'il revient, quand il reviendra plutôt, ça sera pour enlever son Église, donc effectivement, il n'y aura plus de sacrifices sanglants, mais par contre, il y a des sacrifices spirituels. Et donc, qu'est-ce qui plaît à Dieu dans la Nouvelle Alliance ? Eh bien, ce n'est plus les sacrifices d'animaux, les sacrifices sanglants. Ce qui plaît à Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est le sacrifice de louange. Le sacrifice, et il précise, l'offrande, comme il dit, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alors, quand nous venons dans ce lieu pour louer le Seigneur, nous offrons spirituellement un sacrifice, et cela est agréable à Dieu, bien sûr, dans la mesure où notre cœur est sincère lorsque nous offrons ce sacrifice. C'était aussi vrai dans l'Ancienne Alliance, et beaucoup de prophètes ont reproché le formalisme religieux, c'est-à-dire des gens qui s'acquittaient de leur sacrifice d'animal, donc ils pensaient qu'ils étaient nets aux yeux de Dieu, mais en réalité leur cœur n'était pas circoncis, leur cœur n'était pas offert à Dieu. Et les prophètes constamment ont dit, mais on ne peut pas se contenter d'offrir pour l'apparence, Dieu veut une sincérité de cœur. Et ça demeure dans le Nouveau Testament. La sincérité, c'est toujours ce que Dieu attend prioritairement. Alors dans la Nouvelle Alliance, il y a toujours les sacrificateurs. Qui c'est les sacrificateurs d'après vous ? Est-ce que c'est les pasteurs les sacrificateurs ? Non. Enfin, le pasteur est un sacrificateur. Mais qui sont les sacrificateurs ? C'est tous les croyants. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il fallait venir voir un sacrificateur, bon, on pourrait dire un prêtre, un sacrificateur, qui lui faisait l'intermédiaire et il sacrifiait pour nous. Tandis que dans le Nouveau Testament, chaque chrétien est un sacrificateur et peut directement offrir à Dieu son sacrifice. Ça, c'est un grand changement quand même. C'est Pierre qui explique cela, qu'on est tous des rois-prêtres, c'est-à-dire on est des prêtres du Seigneur, des sacrificateurs du Seigneur, et on n'a plus besoin d'intermédiaires pour apporter notre adoration. Depuis la croix, d'ailleurs, le voile a été déchiré. Il y avait juste le grand... En plus, il n'y avait que le souverain sacrificateur, même pas tous les sacrificateurs, mais que le souverain sacrificateur qui avait lieu une fois par an au lieu très saint. Tout ça s'est terminé, le voile a été déchiré, le lieu très saint est accessible à tous les sacrificateurs, c'est-à-dire les croyants nés de nouveau, qui peuvent apporter leur sacrifice directement à Dieu sans passer par un intermédiaire. Voilà ce que nous pouvons dire. Il y a toujours les sacrificateurs, et il y a toujours les sacrifices, bien sûr. Les sacrifices, ce sont donc maintenant les louanges. Ce n'est plus des sacrifices matériels comme des animaux, c'est des sacrifices spirituels. Alors ça, c'était pour la louange. Deuxième terme qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est l'adoration. Au psaume 29 et au verset 2. Psaume 29, verset 2, il est dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel. » Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Alors, vous avez un synonyme d'adorer dans l'Ancien comme dans le Nouveau, c'est « se prosterner ». Car tantôt le même mot est traduit « adorer », tantôt il est traduit « se prosterner ». Psaume 138, 2 « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté ». Et ici « je me prosterne », ça veut dire « j'adore ». Ou quand vous voyez « adorer », ça veut dire « je me prosterne ». Vous voyez, c'est tellement synonyme qu'il n'y a qu'un seul mot qui désigne les deux actions. Dans Matthieu 4, 10, il est écrit « tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras ». Lui seul. Bon, le mot adorer revient aussi beaucoup dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc en hébreu, c'est chacha et en grec proskuneo, qui signifie tous les deux se prosterner et adorer. Se prosterner implique donc un abaissement volontaire. On fléchit les genoux devant Dieu parce qu'on reconnaît sa puissance. Ben, si on ne le fait pas physiquement, on peut le faire dans notre cœur déjà, mais on peut le faire aussi chez soi, se prosterner devant Dieu. Peut-être ici, dans les rassemblements, c'est moins évident de se prosterner, mais en tout cas, on peut le faire aussi physiquement. Il y a l'abaissement volontaire, on fléchit le genou, et puis il y a aussi, dans ce terme, la dimension d'exclusivité. Devant qui est-ce que nous fléchissons le genou ? On peut dire devant Dieu seul. Et nous ne fléchissons pas le genou devant un autre. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Il attend une adoration exclusive. Donc, S'il y a des idoles dans nos cœurs, les pieux sacrés, on en a parlé la semaine dernière, toutes ces idoles qui prennent finalement la première place et on préfère aller adorer ces idoles plutôt que d'adorer Dieu, déjà Dieu n'accepte pas le compromis, il dit non. Cette adoration, après avoir adoré ton idole, tu viens adorer le Dieu vivant, ça ne va pas. Donc, Dieu dit, soit tu m'adores moi seul, soit cette adoration, si vous voulez, elle va pas être agréée de Dieu, et ça va faire comme si on parlait, et c'est tout. Ce n'est pas adorer comme Dieu l'entend. Dieu le dit clairement dans Exode 20, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est les 10 commandements, vous connaissez bien ce texte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Se prosterner, vous vous rappelez que c'est le même mot que adorer. On pourrait dire, tu n'adoreras point d'autres ces statues. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et on découvre que Dieu est jaloux dans les Écritures. Alors, ne pensez pas que la jalousie de Dieu a quelque chose à voir avec quand nous, on est jaloux de quelqu'un. Ça, c'est autre chose. La jalousie de Dieu, c'est qu'il nous aime tellement qu'il nous veut entièrement pour lui. C'est donc une sainte jalousie, on pourrait dire. Et ça veut dire que Dieu ne tolère pas le compromis, on peut le dire comme ça. Il n'acceptera pas qu'on ait une autre idole, quelqu'un qui prend la première place à sa place. Eh bien, lui, il est dans ce sens-là jaloux, c'est-à-dire il ne l'accepte pas. Soit on sert Dieu et lui seul, soit on est dans le compromis et ça ne va pas avec Dieu. Qu'est-ce que donc l'adoration ? L'adoration consiste à déclarer notre amour pour Dieu. Simplement comme un fiancé ou un amoureux va déclarer sa flamme, son amour à sa bien-aimée. C'était hier, je crois, la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et là, il y en a eu des déclarations d'amour. Et là, on est intarissable. Alors, si vous savez plus quoi dire à votre épouse, messieurs, vous pouvez toujours lire le Cantique des Cantiques. Et là, vous voyez que l'inspiration va venir. Parce que c'est une déclaration d'amour entre la Sulamite et Salomon. Et puis, c'est des textes qui nous mettent en éveil, hein, qui éveillent notre amour. Et c'est bon d'entretenir le feu, hein, dans un couple, même quand on est marié depuis plusieurs années, des années. Eh bien, on entretient notre amour. Eh bien, avec Dieu, ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 10 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas depuis combien de temps vous marchez avec le Seigneur, mais on doit, comme la première fois, lui déclarer notre amour, qu'on l'aime et qu'il est tout pour nous, que vraiment on aime sa présence. Et quand l'amour diminue, qu'est-ce qui se passe ? Quand l'amour diminue, ça crée de la distance. Ça crée de la distance. Et quand dans un couple l'amour diminue, bah, des fois ça arrive à des séparations parce que l'amour s'éteint. Si on ne réagit pas, l'amour s'éteint, il y a des séparations, des divorces. Ça ne se vient pas du jour au lendemain, ça se fait par étapes successives. On n'a pas pris du temps ensemble, on n'a pas communiqué, on n'a pas veillé. Voilà. Mais avec Dieu, c'est pareil, vous savez. Il y a des gens qui ne communiquent plus avec Dieu, ils ne prient plus, ils ne prennent plus le temps de lire sa parole. Ils disent qu'ils n'ont plus le temps, on n'a plus le temps, on est trop d'activité. L'amour diminue, ça ne se fait pas en 3 jours, mais en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans. L'amour, il n'y en a plus. Et ça fait une distance entre Dieu et nous. Et voilà, et on est perdu, on retourne dans le monde, loin de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il y a un bel enseignement de Jésus dans Jean chapitre 4 concernant l'adoration, on peut le lire peut-être. Jean chapitre 4 et le verset 20. Jésus, ici, explique à la Samaritaine qu'est-ce que c'est que l'adoration. Jean chapitre 4 et verset 20. Il dit... Nos pères, alors c'est la Samaritaine qui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, et crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est intéressant la définition ici de l'adoration. Remarquez bien la question de la femme. samaritaine qui pose la question ainsi, où est-ce qu'il faut adorer ? La question c'est où ? Est-ce que c'est sur ce mont là-bas, Garizim ? Est-ce que c'est à Jérusalem ? Donc, ça montre une démarche, je dirais la démarche religieuse. Les religieux cherchent souvent l'endroit où il faut adorer parce qu'il leur faut des rites et il leur faut observer une religion. Il faut le bon endroit, il faut faire les bonnes prières et il faut être dans les rites. Et tout est misé sur l'extérieur, le bon lieu, la bonne prière. Mais vous savez, on peut être dans un bon lieu, faire extérieurement, on va dire théologiquement, une prière juste et pourtant ne pas adorer comme Dieu demande. Ça, il y en a plein qui prient et qui se réunissent dans des endroits, on pourrait dire c'est des églises, des temples, ils prient Dieu, mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu demande comme adoration ? Et Jésus ne va pas répondre à cette question comme ça, parce que la réponse de Jésus porte maintenant sur la nature de l'adoration. Et il veut éveiller cette femme samaritaine à ce que ce n'est pas un rite, ce n'est pas un lieu. Alors il dit que ce n'est pas le lieu qui compte, que ça soit même Jérusalem, il va citer Jérusalem, ça ne dépendra pas d'un lieu, parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple, et jusqu'à la destruction, il y avait quand même un grand impact du temple comme lieu d'adoration, comme lieu de rassemblement. Et Jésus dit, c'est pas le lieu, Jésus dit, c'est pas le jour, parce que les religieux, ils s'attachent à un jour formaliste, il faut adorer tel jour. Autrefois, c'était le sabbat, aujourd'hui c'est le dimanche, mais on peut devenir des religieux et se dire, voilà, c'est le dimanche, alors il faut adorer. Et Jésus dit, c'est pas comme ça. Et puis, l'adoration, Jésus lui explique que finalement, elle dépend de notre relation avec Dieu. Et c'est surtout ça que Jésus veut nous faire comprendre. C'est pas, l'adoration, c'est pas où nous sommes. Ce que nous disons dans nos louanges, c'est est-ce que je suis un vrai adorateur ? C'est-à-dire, quelle est ma relation avec Dieu et est-ce que j'adore comme Dieu veut ? Qui suis-je vraiment ? Qui suis-je vraiment ? Alors, regardez l'expression, c'est Jésus qui l'emploie. Verset 23, et c'est bien écrit. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Vous avez noté ce petit mot vrai qui peut laisser entendre qu'il y en a des faux. Il y a les vrais adorateurs, c'est ceux-là que Dieu veut, et puis il y a les autres, ils adorent à leur manière, mais pas comme Dieu veut. En tout cas, ils ne sont pas en communion avec Dieu, ce ne sont pas des vrais adorateurs. C'est dommage, ils ont manqué le but. Alors, Dieu s'intéresse, ou Jésus s'intéresse particulièrement à qui nous sommes à l'intérieur. Et là, surprise. Surprise, parce que Dieu voit tout. Et il y en a qui ont l'apparence de la piété, mais qui en réalité n'ont pas un cœur d'adorateur. Parce qu'on peut très bien avoir l'apparence de la piété et faire la gestuelle, vous savez, il y a une forme de mimétisme, c'est-à-dire que les gens copient. Il y a même des gens qui ne sont pas convertis qui vont rentrer ici, ils vont voir les gens lever les mains, ils vont lever les mains. Et ça se fait d'ailleurs dans certains concerts, ils ne sont pas chrétiens, ils lèvent les mains, ils sont là, les yeux fermés, c'est une forme d'adoration. Il y a du mimétisme, c'est-à-dire que les gens copient, donc ils vont entendre les gens louer, et petit à petit ils vont copier, ils vont reprendre le même vocabulaire. Ils vont même faire des belles louanges, ils vont y mettre l'intonation, mais en réalité, leur cœur n'est pas converti, ils ne sont pas droits devant Dieu, ils ne sont pas en communion avec Dieu, ce ne sont pas des vrais adorateurs. Comprenez qu'il y a une différence entre la forme et le fond. Et Dieu voit le fond, il voit notre cœur, le fond de notre cœur. Et on ne peut pas l'impressionner avec la forme. On peut avoir la plus belle forme, les plus beaux cantiques et les plus beaux moments de louange. S'il n'y a pas le fond, il n'y a rien. S'il n'y a pas l'adoration comme Dieu veut, c'est vide. Donc il y a ceux qui ont l'apparence de la piété, ils adorent d'une manière formaliste. Vous vous rappelez de Caïn, qui de l'extérieur, on pourrait dire, oui mais regardez, il adore parce qu'il offre à Dieu quelque chose. Mais Dieu a jugé que son offrande n'était pas acceptable. Pourquoi ? Dans son cœur, il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas l'amour pour Dieu. Et par contre, d'un autre côté, il y a les vrais adorateurs, on les retrouve ici dans Jean 4, les vrais adorateurs que Dieu demande, et ce sont eux seuls qui adorent en esprit et en vérité, on pourrait dire qui adorent de manière spirituelle. Un petit peu comme Abel, qui, face à Caïn, lui, apportait donc cet animal sacrifié, le sang a été versé, mais aussi son cœur était en adoration devant Dieu. C'était un vrai adorateur. Et c'est cette voie-là, frères et sœurs, qu'il nous faut suivre. Même si c'est celui qui a été persécuté par l'autre, il avait choisi d'adorer Dieu. Troisième terme qu'on trouve dans l'Écriture, après louer, adorer, c'est le mot célébrer. Psaume 35, verset 18. « Je louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » On le trouve par exemple au psaume 92, verset 2. « Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom. » Célébrer ton nom. Ou psaume 69, 31. « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. » Etc. Et le mot « célébrer » vient abondamment. Qu'est-ce que le mot « célébrer » donc de l'hébreu « gadal » signifie « croître », « devenir grand », »,« être grand ». Définition de « célébrer », c'est de faire publiquement et avec force l'éloge de quelqu'un. Quand nous célébrons Dieu, c'est publiquement et avec force. Il y a deux notions à retenir dans ce terme. La première, c'est publiquement, c'est donc célébrer l'Éternel dans les réunions d'assemblée où on est réuni autour de la personne de Jésus. Alors, est-ce qu'on a la liberté ce matin, publiquement, de louer le Seigneur? Est-ce qu'on a cette liberté ou est-ce qu'on est gêné? Est-ce qu'on est gêné par un tel ou un tel ou quelqu'un? Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je loue le Seigneur? Dans quel état d'esprit nous sommes? Si nous sommes gênés, il y a un problème. Et notre adoration, elle va pas sortir, elle va rester coincée dans la gorge. Ou alors, on va louer le Seigneur à voix basse, mais on est gêné. On est gêné. Et on ne peut pas célébrer quand on est gêné. Vous savez, celui qui célèbre, donc, c'est publiquement et avec force. Donc, qu'est-ce qui nous gêne? C'est ce que l'autre va penser de nous. C'est peut-être, est-ce que je vais bien prier avec la bonne syntaxe? Est-ce que je ne vais pas dire une bêtise? Est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? Bon, tout ça, ce sont des questions qui nous bloquent. Et des « et si », il y en a plein. Et tout cela, vous savez, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce sont des raisonnements humains qui empêchent d'exalter le Seigneur, qui empêchent de le célébrer. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, que dans l'Église, il n'y a pas de place pour la timidité. Il n'y a pas de place pour la timidité. Peut-être vous êtes timide. Moi aussi, je suis timide. Et il faut que je me fasse violence aussi. Et je veux vraiment louer le Seigneur, mais je suis timide. J'ose pas des fois. Mais je ne me laisse pas arrêter par la timidité. Vous savez, la timidité, Jésus nous a, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors peut-être on a de la timidité naturelle. On a de la timidité naturelle. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est la timidité qui s'en va et puis c'est la louange qui vient. Il n'y a pas à être timide dans la présence de Dieu. Alors au nom de Jésus, ce que vous pouvez faire quand vous voyez la timidité arriver, au nom de Jésus, je chasse la timidité. Parce que je ne veux pas être freiné par la timidité pour louer mon Dieu. Donc, ne cherchons pas excuses par la timidité. Tout cela, ce sont des pièges de Satan pour nous empêcher de louer. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que dans les assemblées comme ça, il n'y a pas d'adorateurs attitrés. Et d'autres de seconde zone qui n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Toute adoration est agréée de Dieu du moment qu'elle vient d'un cœur sincère. Mon adoration n'a pas plus de valeur que votre adoration, attention. Hein. Mon adoration, votre adoration, elle est attendue de Dieu. Disons que Dieu n'en a pas vraiment besoin de notre adoration, mais ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir quand on le loue, quand on l'adore. Et ce n'est pas parce que moi je suis pasteur que mon adoration, elle va être plus agréée de Dieu que la vôtre ou que quelqu'un qui est converti depuis une semaine. Car nous l'avons dit, quand nous nous rassemblons, nous sommes tous des sacrificateurs et nous apportons tous notre offrande au Seigneur. L'important, c'est d'être un vrai adorateur. Alors, célébrer, c'est donc publiquement, célébrer, c'est donc avec force. C'est-à-dire que quand on célèbre Dieu, on va y mettre toute notre énergie. Alors comment on loue Dieu? Eh bien, on doit y mettre aussi toute notre force, notre énergie pour louer le Seigneur. Alors peut-être on va dire, oui, mais moi j'ai une petite voix, alors forcément... Mais même quand on a une petite voix, on sait se faire entendre hein, quand il y a besoin. Même quand on a une petite voix. Donc, allez-y avec votre force et louez le Seigneur de tout votre cœur. Et puis les autres peuvent s'associer, parce que si on loue tellement doucement que c'est un murmure, les autres ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas s'associer à votre adoration, votre louange. Mais par contre, si vous le faites de toute votre force, ben, les autres participent. Alors, bien sûr, ce que j'aimerais rappeler, c'est que quand on loue le Seigneur, il faut le faire assez courtement, comme on est assez nombreux, hein, pour pas qu'il y ait une personne qui prenne, par exemple, 10 minutes du temps de louange, parce qu'il n'arrête plus, il n'arrête plus. Il faut savoir aussi dire Amen, hein, et laisser la place aux autres. Alors, on le fait courtement, plusieurs, voilà, quelques mots au Seigneur, quelques mots. On n'est pas là pour raconter notre vie, raconter des tas et des tas de choses, mais simplement, on est dans la joie. Alors, on exprime au Seigneur notre joie, voilà, quelques mots. Et puis, comme ça, il y en a plein qui peuvent louer le Seigneur. Et bien sûr, on peut le faire aussi tous ensemble. On l'a fait tout à l'heure, et c'est très bien. Parce que Dieu entend toutes les louanges. Le mot « célébrer » publiquement avec force. Le mot « exalter » au psaume 30, verset 2, verset 2, quatrième terme, « exalter ». Il est dit ici « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé ». Au psaume 34, verset 4, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Où il y a Marie, par exemple, Luc 1, 46, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu ». Exalter vient de l'hébreu « roum » qui signifie « se lever, être haut, être élevé, être exalté ». Ou du grec « mégaluno », exalter, magnifier, rendre grand, estimer hautement, vanter. Alors qu'est-ce que ça veut dire exalter? Ça veut dire élever en gloire la personne de Dieu ou de Jésus. Ça veut dire reconnaître et proclamer sa position élevée, ça veut dire aussi qu'on considère que personne ne peut rivaliser avec Dieu, c'est le plus haut élevé, il est sur le trône, et il doit être sur le trône de notre cœur. Vous savez que le péché de Satan, ça a été à un moment donné de vouloir se faire l'égal de Dieu. Il a convoité cette position élevée. Et il a été précipité du ciel, il n'a pas pu accéder à cela. Donc, il n'y a que Dieu qui est sur son trône, Dieu, Jésus, et c'est lui que nous exaltons. Quand nous exaltons le Seigneur, à la fois on reconnaît son infinie grandeur, et puis on reconnaît aussi notre petitesse, et on s'humilie. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec orgueil, ou on ne peut pas s'approcher de Dieu en donnant des ordres à Dieu, en disant à Dieu, fais ceci, va ici, fais là, enfin bref... Des fois, on parle à Dieu comme si c'était notre serviteur. Et en réalité, nous sommes les serviteurs de Dieu et nous devons nous approcher de Dieu avec humilité. C'est Pierre qui dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous et lui vous élèvera au temps convenable. » Donc ça, c'est exalter. Alors nous exaltons le Seigneur dans nos cultes. On honore son nom, on l'élève en gloire. Alors il y a un autre terme qui revient souvent, c'est des cris de joie. Psaume 42, verset 5, cinquième terme, les cris de joie. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Ou psaume 95, verset 1, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Il y a des cris de joie dans la parole de Dieu. C'est le verbe hébreu ranan qui signifie vaincre ou crier, pousser des cris de joie, pousser un cri retentissant, chanter des louanges. Alors il y a deux notions qui se dégagent de ce terme. La première, c'est d'abord, il y a un certain volume sonore. On ne peut pas crier, j'allais dire, du bout des lèvres. Le cri, ça fait du bruit forcément. Et apparemment, la louange, en tout cas, il y avait des moments qui étaient assez bruyants, parce que si vous rajoutez à cela la musique, il y a toute une partie de musique avec des instruments très sonores aussi. Les cris de joie, on peut considérer que dans certains moments, je ne dis pas tout le temps, hein, il ne s'agit pas de faire tout le temps du bruit, mais à un certain moment, il y avait quand même il y avait du bruit. Alors, cela peut-être nous dérange, le bruit, et peut-être quelqu'un dira, oui, mais moi, j'aime pas quand il y a trop de bruit, ça me gêne. En tout cas, ça ne semblait pas gêner David, puisque lui-même poussait des cris de joie, et on a vu qu'au ciel, Dieu, il est entouré d'anges, et il est dit qu'il poussait des cris de joie dans le ciel. Et ça ne semble pas gêner Dieu, au contraire, il apprécie cette forme d'expression. Alors, ne soyons pas trop gênés si quelqu'un crie de joie, hein, et exprime sa joie devant le Seigneur. Bien sûr, on va dire tout de suite qu'il ne s'agit pas de crier pour crier, on n'est pas... Là, pour faire du bruit, ce n'est pas du tout le but. Bien sûr, le but n'est pas de faire du bruit. Le but est toujours de louer le Seigneur et d'adorer. Parce qu'il y en a qui pensent que plus il y a du bruit, plus il y a de la vie de l'esprit. Hein, et ce n'est pas vrai. Il peut très bien y avoir beaucoup de bruit. On peut faire un ramdam du tonnerre et puis que ça soit creux et qu'il n'y ait pas la vie de l'esprit. Donc, il peut y avoir des moments où on fait du bruit, mais ce qui comptera toujours, s'il y a du bruit, s'il y a des cris de joie, c'est qu'on le fait pour adorer le Seigneur et qu'on ne le fait pas pour crier ou pour faire le plus de bruit que les autres. Donc, dans les cris de joie, il y a l'aspect du volume sonore et puis de la liberté aussi, parce que est-ce qu'on a la liberté de pousser des cris de joie, hein, ou est-ce qu'on va se dire ou qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si moi je me mets à pousser un cri de joie, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'on ne va pas me chasser de cette église, hein? Qu'est-ce qu'on va penser? Voyez. Donc il y a toujours cette pensée-là de la crainte, mais des cris de joie, bon, bien sûr, il faut rester, on va dire, respectable dans les normes. On ne va pas faire n'importe quoi pour Dieu, mais des cris de joie, en tout cas, ça ne gêne pas dans la parole de Dieu, c'est biblique. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'allégresse. Les cris de joie et l'allégresse. L'allégresse, c'est une joie très vive qui se manifeste publiquement. Et on voit que la louange dans la parole de Dieu, elle est festive et elle est joyeuse. Ce ne sont pas des cultes froids, austères, avec un silence de plomb qui oppresse. Il y a la joie, il y a des cris de joie, il y a l'allégresse. Et parfois, on n'a pas trop le moral ou on n'est pas trop bien. Il y en a qui me disent, oui, j'étais pas bien, c'est pour ça que je ne suis pas venu. C'est pour ça. Mais en fait, venons quand même au culte, venons quand même à nos rassemblements d'église, parce qu'il y a toujours une parole de Dieu pour nous réconforter. Il y a la présence du Saint-Esprit, il y a les dons spirituels, il y a la parole. Alors même si on n'est pas forcément dans un état d'esprit à vouloir être joyeux, ben, je crois que quand on se prépare, on en a parlé de la préparation, on peut déposer au Seigneur tous nos fardeaux. Vous savez ce qui m'est arrivé hier? Je me suis fait cambrioler, enfin je me suis fait voler mon portefeuille. Je me suis fait voler mon portefeuille. Je n'avais pas envie de pousser des cris de joie. Mais ce matin au culte, moi j'ai déposé tous mes fardeaux au Seigneur et je viens louer le Seigneur. Et ce n'est pas ça qui va m'empêcher de louer le Seigneur. Hein. Et il ne faut pas que quand il y a un événement qui nous arrive, qui nous contrarie, que ça nous gâche un culte quand même. Ce serait dommage. On vient pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le célébrer. Donc on va déposer au Seigneur tous nos fardeaux, tous nos soucis. Et puis on vient, vous voyez, on est dans la présence de Dieu et on vient pour le louer, pour le célébrer. Ah, j'ai remarqué que les cris sont aussi associés à la victoire, au psaume 47, verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Et il s'agit ici des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette, c'est l'hébreu « teroua » qui signifie « alarme », « signal », « son de trompette », « cri », « hurlement », « cri de guerre » ou « de joie ». Alors le peuple... Non seulement il y avait des fois des cris de joie, mais il y avait des cris de victoire. Et ça aussi, on peut bien sûr exprimer à Dieu, bien qu'on est dans la victoire. Et ça doit être notre état d'esprit dans la louange et dans l'adoration. Comment est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des vaincus ce matin ou est-ce que nous sommes des vainqueurs? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! C'est comme ça que nous venons louer le Seigneur. Hein, on ne vient pas en train de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête aujourd'hui ?» Depuis que je suis chrétien, rien ne va plus. Vous voyez, si on vient dans cet état d'esprit de défaitisme, un état d'esprit de plainte, et puis ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas, etc. Et puis, voilà. Alors comment voulez-vous avoir des cris de triomphe dans ces conditions? Non. Alors tout ça, ça nécessite une préparation. Donc on se prépare et puis on vient avec un état d'esprit de victoire. Sixième terme, chanter. Au psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Psaume 96, verset 1, c'est un terme qui revient souvent. Zamar en hébreu qui signifie chanter des louanges, faire de la musique. Le chant a une place bien sûr très importante avec la louange et l'adoration. Le chant, je dirais que tous les psaumes, d'ailleurs, c'était des cantiques. Ils étaient chantés. Et Dieu aime qu'on le loue au travers de ses chants. Bien sûr, le chant et la musique, on le rappelle toujours, ce ne sont qu'un moyen. Ce n'est pas la musique que Dieu apprécie particulièrement, ou nos voix, c'est la louange et l'adoration. Mais on peut le louer par les chants, on peut le louer par la musique, et tout cela, ce sont des beaux moyens. Il y a un chanteur qui peut avoir une voix magnifique. Il y a d'ailleurs des chanteurs dans ce monde, ils ont une voix magnifique, ils chantent bien, mais ils ne chantent pas pour Dieu. Même s'ils chantent un cantique chrétien, si vous voulez, ça va être magnifique, mais le cœur n'y est pas, et ils ne sont pas vraiment au Seigneur. Donc ce que Dieu n'apprécie, ce n'est pas une voix magnifique ou un chant, un beau texte. Ce n'est pas ça que Dieu va apprécier. C'est la louange et l'adoration. Pareil pour le musicien. Il peut y avoir dans ce monde un musicien de talent qui joue d'un instrument remarquablement, du piano, de la guitare. Mais on lui donne une partition d'un cantique, il va le jouer. Mais s'il n'adore pas, Dieu ne va pas agréer son morceau de musique. Ça ne sera qu'une prestation. Ce que Dieu agrée, c'est quand on adore par la musique, par la louange. C'est le parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. S'il n'y a pas cela, il n'y a rien. Pour Dieu, ça sonne creux, c'est juste de la musique et du chant, et c'est pas ce que Dieu approuve. Dans le Nouveau Testament, il est précisé que nous pouvons chanter de deux manières. 1 Corinthiens 14, verset 15, Paul dit « Que faire donc ? Je prierai par l'esprit et je prierai par l'intelligence, je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. » Chanter par l'intelligence, ça consiste à chanter des cantiques comme on l'a fait ce matin en bon français. Alors on suit le texte et on chante avec notre intelligence. Bien sûr, on y associe la foi et on loue le Seigneur. Ça, c'est chanter par l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que chanter par l'esprit ? Chanter par l'esprit, c'est comme notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu, eh bien on laisse le Saint-Esprit, par les langues qu'il nous donne, nous inspirer dans le chant. C'est le chant en langue. On peut prier en langue, dit Paul, mais on peut prier en esprit, on peut chanter en langue, mais on peut chanter en français, mais on peut chanter avec notre intelligence, mais on peut chanter en langue. Donc, quand on se laisse inspirer dans le chant en langue, donc on parle, c'est comme un parler en langue, si vous voulez, sauf qu'on se laisse inspirer pour la mélodie, et dans l'adoration collective, on peut louer en langue, on peut chanter en langue, on peut chanter en langue en se laissant inspirer par l'esprit selon la langue et les mélodies qu'il nous donne. Éphésiens 5, 19, Paul recommande que nous chantions abondamment. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les cantiques spirituels, ce sont ces chants inspirés par le Saint-Esprit, on pourrait dire des chants qui nous conduisent dans l'adoration. Septième terme, le terme glorifié, psaume 86, verset 12. Je louerai Dieu de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, je glorifierai ton nom, pardon, à perpétuité. Ou dans le Nouveau Testament, il est dit que les bergers, lorsqu'ils ont eu l'apparition de l'ange, ils s'en retournaient glorifiant et louant Dieu dans Luc 2, 20. Alors ça, c'est deux termes. Donc le premier, c'est en hébreu kabad, être lourd, être riche, être honorable, être glorieux. Et le verbe daxo en grec, doxazo, de doxa, la gloire, qui signifie louer, vanter, magnifier, célébrer, rendre honneur. Ben, glorifier, il s'agit de rendre la gloire à qui elle est due. Et nous, quand nous glorifions, nous ne glorifions pas une personne, un homme ou un... Vous savez qu'on sait honorer un chef d'État quand il vient visiter notre pays. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dérouler un beau tapis rouge à l'aéroport, là, et puis il va y avoir les gardes qui vont être debout, comme ça, pour accueillir un chef. C'est ça, honorer. Eh bien, nous glorifions le Seigneur. Aussi bien on sait le faire pour les hommes, eh bien, nous, on va le faire pour notre Dieu, parce qu'il est digne de recevoir la gloire, l'honneur qui lui est dû, parce que nous reconnaissons sa majesté. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous voyons Jésus, nous ne le voyons pas crucifié, dit, mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est comme ça que nous le glorifions, frères et sœurs, par cette vision que nous avons de la gloire céleste. Terme glorifié. Un huitième terme, c'est le terme action de grâce. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, dit Dieu. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. des actions de grâce. Donc, de l'hébreu toda, action de grâce dans les chants d'adoration, hymne de louange ou de reconnaissance, ou le grec eucharistéo, être reconnaissant, rendre grâce, remercier. Alors, qu'est-ce que l'action de grâce ? Ça consiste à remercier le Seigneur. Et c'est vrai que merci, c'est un mot qui passe souvent aux oubliettes, à côté, mais pourtant, on doit rendre des actions de grâce. On a souvent beaucoup de demandes à faire, mais la Bible nous invite à rendre grâce au Seigneur, c'est-à-dire lui dire merci, merci pour tout, pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il nous accorde jour après jour, pour sa fidélité. Et les sujets d'action de grâce sont intarissables, simplement, il nous faut nous les rappeler. Il y a un cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Alors on peut dire merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli, des actions de grâce. Et un dernier terme, le mot bénir. Bénir, on trouve beaucoup dans la parole, psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Et ça, c'est une injonction que David dit à son âme. C'est comme David dit à son âme. David dit, mon âme, maintenant tu vas bénir le Seigneur. Peut-être il n'avait pas, il n'était pas tout à fait disposé. Des fois, on arrive au culte, on a vécu des choses difficiles. Bon, on n'est pas disposé, mais voyons, on peut se donner une injection. Ben, je suis là, allez. Je vais bénir le Seigneur. Mon âme, maintenant, tu vas bénir le Seigneur. Tu ne vas pas écouter tous les soucis, les fardeaux, les difficultés, tout ça. Il dit, David, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Luc 24, 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant le Seigneur. Bénir. Mon âme bénit l'Éternel. C'est l'hébreu Barak, qui signifie louer, bénir, s'agenouiller, ou le grec eulogéo, dire du bien. Bénir. Bénir Dieu consiste donc à dire du bien de Dieu. Et ben, on a tellement de sujets de bénir le Seigneur, on a tellement aussi d'occasions quand nous pensons à son amour, quand nous pensons à sa fidélité, à sa grandeur, alors on peut bénir le Seigneur. Et on voit dans ces passages que si elle ne vient pas spontanément, la bénédiction, on peut se faire une injonction et de dire, allez, Jean-Marc, maintenant tu vas bénir le Seigneur. Voilà. Et peut-être on peut le faire aussi, hein, pour qu'on apporte au Seigneur notre adoration. En conclusion, la Bible donc nous montre une grande diversité de termes. Je ne les ai pas tous cités, j'ai pris les principaux ici, mais qui nous parlent de la louange et de l'adoration et de ces termes qui sont autour de ce sujet. On voit que Dieu aime la nouveauté et non pas la liturgie. Il aime que nous l'adorions d'une manière spirituelle et non pas d'une manière formaliste, religieuse. Le but, dans tous ces termes, c'est toujours d'adorer et de louer. Quand il s'agit de faire du bruit, quand il s'agit de cris de joie ou de cris de victoire, le but, c'est toujours de louer. On peut le faire donc par nos voix, on peut le faire par nos chants, on peut le faire par nos instruments de musique, mais que tout serve à la louange et à la gloire de notre Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, hein? On veut louer le Seigneur, on veut que notre voix soit vraiment portée à la louange, que si on joue de la musique, ça soit pour louer le Seigneur, s'il y a des cris de joie, ça soit pour l'honorer. Alléluia. Merci Seigneur encore pour tous ces termes qui sont tellement variés et qui nous montrent que tu aimes la diversité et l'expression d'un cœur sincère. Et nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour que chacun d'entre nous, nous puissions faire des progrès dans la louange, dans l'adoration et dans la liberté, afin que, au milieu de nous, il n'y ait pas cette gêne de penser qu'est-ce que l'autre va penser de moi, qu'est-ce que l'autre va dire, et si je lève les mains, et si je pousse un cri de joie, et si je m'exprime devant Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Eh bien, ce matin, nous voulons vraiment nous exprimer librement sous ton regard, et t'apporter la reconnaissance du fond de nos cœurs parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, je te prie que dans nos cultes, il y ait réellement cette liberté du Saint-Esprit pour que chacun puisse apporter son adoration sans crainte de jugement. Et puis que tu donnes à ton peuple cette louange inspirée en langue, cette louange, ces chants en langue. Seigneur, accorde-nous de vivre cette dimension dans l'adoration. Seigneur, nous ne voulons pas rendre des cultes formalistes, des cultes religieux. Nous désirons, Seigneur, laisser davantage de place à la vie de l'Esprit, à ton action au milieu de nous, et à l'expression de la joie, de la ferveur, de l'amour qui est dans notre cœur pour nous, car notre cœur déborde d'amour et nous voulons l'exprimer de tout notre cœur. Merci d'encourager mes frères, mes sœurs, de leur donner la hardiesse, le courage, de pouvoir élever la voix pour ceux qui n'osent pas encore peut-être, de pouvoir vaincre la timidité au nom de Jésus, de pouvoir être délivré du regard des autres, du qu'en dira-t-on, et de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que tu demandes et nous voulons rentrer, Seigneur, dans tes plans, dans tes projets. Bénis mes frères et mes sœurs, le reste de cette journée qui t'appartient et à toi toute la gloire. Amen.